J'aimerais parler ce matin sur Lot et Abram. Dans Genèse, chapitre 13, verset 1er, Abram remonta d'Égypte vers le midi, lui, sa femme et tout ce qui lui appartenait, et Lot avec lui. Abram, qui était très riche en troupeaux, en argent et en or, il dirigea ses marches du midi jusqu'à Bethel, au lieu où était sa tente au commencement entre Bethel et Haï, au lieu où était l'autel qu'il avait fait précédemment. Et là, Abram invoqua le nom de l'Éternel. Lot, qui voyageait avec Abram, avait aussi des brebis et des bœufs et des tentes. Et la contrée était insuffisante pour qu'ils demeurent tous ensemble, car leur bien était si considérable qu'ils ne pouvaient demeurer ensemble. Il y eut querelle entre les bergers des troupeaux d'Abram et les bergers des troupeaux de Lot. Les Cananéens et les Phéréziens habitaient alors le pays. Abram dit à Lot, « Qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite, et si tu vas à droite, j'irai à gauche. » Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée devant, avant que l'Éternel ait détruit Sodome et Gomorre. C'était jusqu'à Tsoar, comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain. Il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Abram habita dans le pays de Canaan et Lot habita dans les villes de la plaine et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Les gens de Sodome étaient méchants et de grands pécheurs contre l'Éternel. L'Éternel dit à Abram, après que Lot se fut séparé de lui, « Lève les yeux ». Et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident, car tout le pays que tu vois, je te le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité sera comptée. Lève-toi, parcours le pays dans sa longueur, dans sa largeur, car je te le donnerai. Abram leva ses tentes et vint habiter parmi les chênes de Mamré, qui sont près d'Hébron, et il bâtit là un autel à l'Éternel. Amen. Nous avons parlé la dernière fois de Caïn et Abel, et nous avons expliqué qu'ils représentent deux courants au sein du peuple de Dieu. Caïn représente la chair, et Abel représente l'esprit. Ces deux courants, nous les retrouvons tout au long de l'histoire de la parole de Dieu, et notamment ici, dans cette histoire qui rassemble Lot et Abram, car Lot et Abram représentent aussi la chair et l'esprit. Ils ont tous les deux quitté Ur en Chaldée, tous les deux se rendent vers le pays de Canaan, donc tous les deux sont au bénéfice des promesses de Dieu. Ce sont des croyants, tous les deux. Et c'est bien, on peut dire qu'ils ont pris la bonne route. Et c'est vrai que, on peut dire qu'ils ont accepté Dieu dans leur vie, c'est une bonne chose. Et nous savons que beaucoup ont bien commencé dans la vie chrétienne. Ils ont commencé à marcher avec le Seigneur, ils ont commencé à vivre selon les voies de Dieu. Et béni soit le Seigneur pour toutes les âmes qui ont été sauvées, c'est une grâce, c'est une bénédiction. Mais la Bible nous montre à bien des égards que, une fois qu'on a été baptisé, qu'on a donné notre cœur au Seigneur, qu'on s'est engagé avec Dieu, tout ne s'arrête pas là et que la vie chrétienne est un long parcours. Et durant ce parcours, il y a toutes sortes de tentations, de sollicitations. Et certains épousent la pensée ou la dynastie de Caïn. Ce sont ceux qui sont attachés aux choses terrestres, aux choses de la terre, à la vie mondaine. Ce sont donc des chrétiens partagés. Et puis d'autres sont issus de la postérité spirituelle d'Abel, ça va être Abraham, ceux qui marchent par la foi, qui s'attachent aux choses d'en haut et qui aiment le Seigneur par-dessus toute chose. Et on voit que ces deux destinées spirituelles bien, continuent dans le courant parmi les croyants. Il y a toujours un prix à payer, voyez, comme Abraham, pour vivre la vie de victoire qu'avait Abraham. Je pense que nous tous qui sommes là, si nous sommes chrétiens, nous désirons tous vivre une vie de victoire, mais nous ne devons pas oublier que pour vivre une vie de victoire comme Abraham, il y a un prix à payer, qu'Abraham a payé, le prix de la consécration, le prix de la prière, le prix d'une mise à part pour choisir les choses de Dieu. Et cela, bien, tous ne le font pas. Alors, le premier point que je voulais voir avec vous dans ce passage, c'est d'abord les influences qu'il y a eu. L'influence qu'il y a eu dans la vie de Lot et l'influence qu'il y a eu dans la vie d'Abraham. Si on regarde Abraham, on voit que son influence, sa source d'influence, c'est Dieu. Dieu lui a parlé alors qu'il était à Ur en Chaldée. Il a entendu la voix de Dieu. Il est conduit par Dieu. Donc, on peut dire qu'il a développé une relation profonde avec Dieu. Dans le texte que nous avons lu, il est dit au verset, par exemple, 4, qu'Abraham est retourné au lieu où était l'autel qu'il avait fait précédemment. Alors, faire un autel, ça veut dire entrer en communion avec Dieu, ça veut dire prier Dieu. Et là, il invoqua le nom de l'Éternel. On voit que, donc, chez Abraham, il a développé une proximité avec Dieu, une intimité, une relation, mais aussi une vie de prière. Et ça, ça nous parle de la vie de prière. Bien sûr, Abraham n'est pas parfait, il est mentionné dans les versets qui précèdent, c'est-à-dire au chapitre 12, les versets 10 et suivants, qu'à un moment donné, il a été tenté d'aller en Égypte, et là-bas, il y a des choses qui ne se sont pas très bien passées, alors il a dû revenir dans le pays. Et nous faisons tous des détours, nous faisons tous des erreurs. Mais néanmoins, quand nous sommes attachés au Seigneur, il y a ce principe, c'est qu'on va reconnaître nos erreurs, confesser nos péchés, demander pardon à Dieu et repartir d'un bon pas. C'est ce qui est arrivé à Abraham. Il a eu une conviction de péché, il s'est repenti et il est retourné dans la voie que Dieu voulait pour lui. Alors, quelles sont les influences de Lot ? Si Abraham est influencé directement par Dieu, Lot, par contre, lui, il suit directement Abraham. Il suit Abraham parce que quand il a quitté Ur en Chaldée, la Bible dit qu'Abraham a pris Lot avec lui et Lot a suivi le mouvement. Il faut savoir que le père de Lot s'appelait Haran et qu'il est mort quelques instants avant, c'était au chapitre 11. Il est mort et Abraham s'est retrouvé comme orphelin. Lot s'est retrouvé comme orphelin et c'est Abraham qui l'a pris sous sa responsabilité. Mes frères et sœurs, si nous suivons un homme, nous serons toujours à côté parce qu'il nous faut apprendre à suivre Jésus et à nous nourrir de la parole de Dieu. Et on voit chez Lot qu'il n'a pas cette démarche personnelle, qu'il manque de maturité spirituelle, qu'il manque de communion avec Dieu et ça va être pour lui un piège dans sa vie, ça va être pour lui un sujet bien d'égarement. Le problème, c'est qu'on ne voit jamais Lot prier dans ce passage, ni par la suite, tandis qu'Abraham, à plusieurs reprises, il bâtit un autel à l'Éternel, il prie, il invoque l'Éternel, il est en communion avec Dieu. Mais Lot ne prend pas le temps de prier. Et ça nous parle de la prière, c'est-à-dire, nous ne devons pas négliger nos temps de prière personnels, avoir un temps avec le Seigneur, bien sûr, lire la parole de Dieu, être en communion avec Dieu, parce que c'est un temps de ressourcement pour notre âme, essentiel. Si nous le négligeons, nous sommes déjà en danger. Et puis, il y a les temps de prière collectifs, où nous sommes rassemblés, par exemple, à l'église, que ce soit le mardi soir, le dimanche avant le culte, ou quand il y a déjeuner et prière, le lundi à midi et demi. Ce sont des temps de prière que nous mettons à part pour Dieu. Peut-être on ne peut pas venir à tous les horaires, parce que certains ont des horaires décalés, mais il y a toujours un moment où on peut venir. Et nous ne devons pas négliger les temps de prière, c'est important, pour marcher dans les voies du Seigneur. Alors, quelquefois, il faut se faire violence, ne pas s'écouter, être spirituellement ferme. Parce que à chaque fois que vous voulez faire la volonté de Dieu, il y a toujours l'ennemi qui va essayer de vous détourner. Donc, il nous faut être résolu. Si vous lisez le Nouveau Testament, vous verrez dans l'épître de Pierre que Lot est appelé un juste. Il était juste, c'est-à-dire qu'il était un croyant. Il connaissait Dieu. Mais néanmoins, on ne voit pas sa piété. On pourrait dire qu'il avait une piété fictive. Vous voyez, c'est comme on entend parler parfois d'emploi fictif en ce moment. Eh bien, lui, il avait une piété fictive. En tout cas, il avait l'apparence de la piété, mais il n'avait pas la réalité, comme dit Paul, l'apparence de la piété, mais il avait renié ce qui en fait la force. Quand on n'a pas de communion avec Dieu, on peut très bien chanter des cantiques et exprimer des prières et tout cela. On peut avoir la forme, l'extérieur, mais néanmoins, on n'a pas l'intérieur et cela. Eh bien, ça ne peut pas avancer comme Dieu le veut. On ne peut pas non plus être chrétien en secret. Lorsqu'on a peur de témoigner de sa foi, eh bien, prions le Seigneur qu'il nous libère de cette timidité. Parce que, vous savez, les gens n'ont pas honte d'afficher leur, opinions. Surtout aujourd'hui, on est dans la campagne électorale et les gens, voilà, ils vont manifester, ils témoignent de leur opinion politique. Alors nous ne devrions pas avoir honte de témoigner de notre opinion spirituelle, de notre foi, quand nous en avons l'occasion, et avec sagesse bien sûr, mais défendre notre point de vue, et si on en a l'occasion dans une discussion, eh bien de communiquer notre espérance, notre attachement à Dieu, et notre confiance qu'après la mort, il y a quelque chose, et que la vie ne s'arrête pas sur cette terre, de parler de ce que nous croyons, de parler de Jésus. Vous voyez, il y a un texte dans 2 Timothée chapitre 1 verset 7 qui dit ceci, « Car l'Esprit que Dieu nous a donné ne nous rend pas timides à Toulouse-Ouest. » J'ai rajouté, « Il ne nous rend pas timides à Toulouse-Ouest. Au contraire, son Esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse. N'ayons donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'Évangile par la puissance de Dieu. » Alors, que dit ce texte ? Eh bien, ne soyons pas timide. Pourquoi ? Parce que à chaque fois que nous voulons parler de Dieu ou que nous voulons louer le Seigneur, le diable il fait tout pour nous fermer la bouche. Alors ne nous laissons pas intimider, ne nous laissons pas effrayer, mais au contraire, venons avec cette conviction que nous pouvons le faire, que nous pouvons témoigner, que nous pouvons parler du Seigneur. Peut-être à la sortie, nous allons pouvoir encourager quelqu'un, avoir une parole d'exhortation, et tout cela, nous pouvons le faire. Et nous n'avons pas à nous laisser, entre guillemets, intimider par l'adversaire qui vous dit peut-être « tu n'es pas capable, tu n'arriveras jamais à prier, tu n'arriveras pas à témoigner, tu ferais mieux de te taire, les gens vont se moquer de toi ». J'ai connu ça lorsque je travaillais dans une agence de publicité et on avait fait un prospectus pour l'église. Et dans cette agence, je ne le savais pas, mais il y avait une chrétienne. Et j'ai présenté le prospectus donc, qu'on voulait faire en format spécial à cette personne qui était à l'ordinateur et c'était elle qui devait le composer. Et j'ai découvert ce jour-là, ça faisait au moins 6 mois ou 9 mois que j'étais dans cette entreprise, et jamais, jamais elle avait parlé de sa foi. Mais c'était une chrétienne, mais c'était une chrétienne incognito, c'était une chrétienne en secret. Et elle m'a dit surtout, ne dites à personne que je suis chrétienne. Alors j'ai trouvé ça dommage, parce que c'est tout le contraire, quand on est chrétien, nous n'avons pas honte de l'Évangile, et l'esprit que nous avons reçu ne nous rend pas timides. Et si nous sommes chrétiens, bien nous allons le partager naturellement. Bien sûr, ça va se faire avec intelligence, avec sagesse. Il ne s'agit pas d'interrompre les heures de bureau et de commencer à prendre la parole de Dieu et d'aller prêcher directement comme cela. Il nous faut avoir de la sagesse, du bon sens. Mais il y a des fenêtres qui vont s'ouvrir. Il y a des portes qui vont s'ouvrir. Peut-être un collègue de travail qui va venir vers vous et qui va vous partager d'une situation. Eh bien, ça, c'est Dieu qui vous l'envoie. Parce que nous ne sommes pas en service que dans l'Église ce matin. Nous sommes dans l'Église, c'est vrai, c'est l'Église rassemblée. Mais la plupart du temps, nous sommes tous dispersés. Nous sommes soit dans un lieu de travail, soit dans une visite, soit dans un entretien. Et là, nous sommes aussi l'Église. Et vous avez des gens que Dieu vous envoie. Et à ce moment-là, saisissons l'opportunité pour leur témoigner une parole. Pour semer une parole d'espérance. On ne sait pas ce que ça va produire. Vous voyez, c'est un petit peu comme ce semeur, il va semer dans son champ, il y a des tas de grains. Il y en a peut-être qui vont être perdus, mais en tout cas, il a l'espérance qu'il va y avoir une récolte. Eh bien, c'est dans cette espérance-là que nous témoignons. Alors, n'ayons pas peur, particulièrement quand le diable veut nous fermer la bouche. Alors, ouvrons-la et disons autour de nous ce que Dieu a fait pour nous. Notre préoccupation ne doit jamais être « qu'est-ce que les autres vont penser de moi ?» mais plutôt « qu'est-ce que Dieu va penser de moi si je me tais ?» Qu'est-ce que Dieu va penser de moi si je ne témoigne pas à cette personne qu'il m'a envoyée ? Alors que c'est mon rôle, c'est ma responsabilité. Il y a un proverbe qui dit ceci, c'est que le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Commençons à craindre le Seigneur, c'est-à-dire à nous poser la question, mais qu'est-ce que Dieu va penser si je ne saisis pas cette opportunité ? Qu'est-ce que Dieu va penser si je ne profite pas de ce temps pour ouvrir ma bouche et témoigner ou pour louer le Seigneur? Eh bien, saisissons cette opportunité parce qu'elles nous sont données par Dieu. Et peut-être, eh bien, est-ce qu'il y aura une autre occasion pour cette personne? On ne sait pas. À chaque fois, c'est la bonne occasion. Le deuxième point que je voulais partager dans ce passage, c'est qu'entre Lot et Abraham, on a dit il va y avoir comme une opposition qui va s'installer. Ça va se situer au niveau des bergers. Ils étaient trop nombreux, il y a eu des querelles entre les bergers de Lot et ceux d'Abraham. Ça nécessite donc une séparation entre ce qui est du monde charnel, de ce qui est terrestre attaché aux choses d'en bas, et de ce qui est spirituel, qui aime le Seigneur, qui est attaché aux choses d'en haut. Et c'est ce qui va se passer entre Lot et Abraham. Lot avait bénéficié de la bénédiction de Dieu parce qu'il avait suivi Abraham, mais ses troupeaux s'étaient développés, il était béni au contact d'Abraham, mais à un moment donné, le charnel ne peut plus cohabiter avec le spirituel. Il va y avoir une séparation. La séparation entre Lot et Abraham est l'image de ce conflit qui existe entre la chair et l'esprit. Tôt ou tard, il y aura une séparation. C'est nécessaire pour que le spirituel puisse se développer, mais le charnel, il est appelé aussi à grandir et à devenir plus mature. C'est-à-dire qu'on a toujours l'espoir que cette personne, comme Lot, qui est attachée aux choses de la terre, eh bien, soit transformée par la grâce de Dieu et vienne à être plus spirituelle. Mais cela, c'est le travail du Seigneur dans son cœur. Alors, Abraham est un homme de paix. Il dit à Lot, eh bien, choisis, si tu vas à gauche, j'irai à droite. C'est toi qui prends la responsabilité du choix. Dans Matthieu 5, Jésus dit, « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » C'est ce que nous sommes appelés à faire. Nous sommes dans la descendance d'Abraham. Nous sommes des hommes et des femmes de paix. Et quand il y a des conflits, quand il y a des choix à faire, eh bien, laissons Dieu diriger toutes choses. Faisons-lui confiance. Parce que si nous voulons toujours notre intérêt sur le plan personnel, le plan matériel, et au détriment de préserver la paix, eh bien, nous faisons une œuvre contraire à ce que Dieu demande. Alors Abraham, il est prêt à perdre, dans un certain sens, sur le plan humain, mais il veut conserver la paix avec son frère, avec sa famille. Il l'appelle son frère, mais c'est son neveu. Il s'agit de chercher Dieu, de lui plaire. Au psaume 34, verset 13, il est dit « Quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur ?» Préserve ta langue du mal et t'élève des paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche et poursuis la paix. Parce que la paix, c'est important. Nous devons la rechercher. Nous devons la poursuivre. Et regardez aujourd'hui ce que les gens sont prêts à faire pour avoir un peu de paix, tellement ils sont tourmentés, tellement ils sont agités. Ils sont prêts à payer. Ils sont prêts à acheter des produits très forts pour trouver la paix. Mais la paix, nous pouvons la trouver dans la présence de Dieu. La paix, Abraham l'avait. La paix, Abraham l'avait dans cette communion avec Dieu. Nous pouvons l'avoir. Cette paix, elle est donnée. Cette paix, c'est un cadeau de Dieu que nous avons dans notre cœur. Un troisième élément, c'est les choix maintenant de Lot et Abraham. Abraham, qui est attaché à Dieu, va laisser donc le plus jeune choisir. Alors, il aurait pu, de lui-même, étant donné son âge, son ancienneté, bien dire, voilà, c'est moi qui vais choisir, je vais aller là et toi, tu iras forcément de l'autre côté. Mais il s'en remet à Dieu. Voyez, il y a un texte dans Philippiens 2:3 qui dit ceci. « Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. » On voit chez Abraham une humilité pour laisser à l'autre la possibilité du choix, alors qu'il avait tous les droits pour choisir le premier. Et Lot, lui, a saisi cette opportunité. Il a regardé la plaine du Jourdain. Et on voit que c'est un homme qui est conduit par les yeux, par la vue, qui va être pour lui une occasion de chute. Et à bien des égards dans la parole de Dieu, on voit que quand on choisit par l'impulsion, par la vue, par quelque chose qui frappe les yeux, eh bien, nous faisons des mauvais choix. Ça va être le cas de Lot. Sa vue est trompeuse, il voit la plaine arrosée, il le voit comme un jardin de l'Éternel, c'est-à-dire que la ville de Sodome et Gomorre, il ne voit pas le mal. Mais Dieu dit c'est mal, ce sont des grands pécheurs contre l'Éternel. Et lui, il voit tout l'aspect positif, mais ce que Dieu dit c'est bien d'être dans la présence de Dieu, c'est bien d'être dans la montagne, le lieu où on rencontre Dieu. Eh bien ça, il le voit mal. Et donc quand on est attaché aux choses d'en bas, on ne voit pas les choses à l'endroit. On voit tout à l'envers. Lot voit ce qui est bien, il le voit mal, et ce qui est mal, il le voit bien. C'est le véritable problème de ceux qui sont charnels, attachés aux choses de la terre. On ne peut pas voir sous l'angle de Dieu dans ces cas-là. Alors, Lot choisit ce qui paraît être le meilleur, mais je me suis posé la question, peut-être on aurait fait un choix similaire, parce qu'on va dire c'est le meilleur pour nous, mais est-ce que nous savons, nous, finalement, qu'est-ce qui est le meilleur pour notre vie? Est-ce que nous le savons? Est-ce que nous sommes sûrs de le savoir? Moi, je ne suis pas sûr qu'on le sache vraiment. Je pense qu'on a une idée de ce qui paraît pour nous le meilleur, en tout cas, on en a des idées, mais le savoir, on ne le sait pas vraiment. Dieu le sait mieux que nous. Confions-nous en Dieu pour qu'il nous guide dans la meilleure voie. Parce que nous pensons que c'est la meilleure voie. Nous pensons que ça va être, pour lui, hein, Lot, c'est Sodome et Gomorre, c'est, ça va être le plus agréable, ça va être le plus facile. Et il s'est fait tout son plan de manière humaine. Il n'a pas consulté Dieu, il n'a pas pris le temps de prier. Nous pensons savoir ce qui est bon, mais nous faisons des choix qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Et les pires choix que nous faisons, c'est quand nous faisons comme Lot, quand on se laisse conduire par la chair. J'ai lu cette histoire un jour, un jeune homme qui voulait épouser une jeune femme, et le nom de la jeune fille, c'était Grâce. Alors, il a prié Dieu, et il a dit, « Seigneur, conduis-moi. » Alors, il a ouvert la Bible au hasard, et il est tombé sur Philippiens chapitre 1, verset 2, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Alors quand il a lu ce verset, il en a conclu que Dieu voulait qu'il se marie avec elle. Vous voyez, c'est un peu chercher des signes partout, ça. Et parfois nous sommes un peu comme cela, mais c'est charnel, c'est terrestre. Et ça n'est pas nécessairement la volonté de Dieu, vous comprenez, il y a d'autres paramètres. Notamment un des plus grands paramètres qui va nous conduire, c'est la paix de Dieu. Si nous sentons dans une entreprise, nous avons fait un choix, et c'est peut-être le cas de quelqu'un, vous avez pris une direction, mais vous n'avez pas la paix de Dieu dans votre cœur, mais ça c'est un indice quand même que Dieu vous montre que ce n'est pas bon pour vous, ce n'est pas sa volonté. C'est pourquoi il faut écouter l'Esprit qui parle à notre cœur par la paix. Et quand on n'a plus la paix, ça montre qu'on s'est soit égaré, soit on s'est trompé, soit on n'est pas dans la bonne voie et qu'il nous faut revenir en arrière. Donc, écoutons cette petite voix intérieure, c'est l'Esprit de Dieu qui nous communique sa paix. Si nous avons la paix, si nous sommes confiants, si nous avons l'assentiment de Dieu, alors nous aurons la paix intérieure. Mais quand nous faisons des mauvais choix, l'Esprit nous avertit, il y a cette alerte, attention, attention ce que tu fais. Le choix de Lot, il révèle son cœur, il est égoïste, il est mauvais, il est tortueux, il y a des choses dans sa vie qui ne sont pas droites, et tout cela est mis en lumière. Un quatrième point que je vois dans ce passage, c'est le compromis de Lot, dans Genèse 13 toujours, qui va finalement s'installer progressivement à Sodome et Gomorre. Il n'y va pas d'un coup, direct, mais la Bible dit que dans un premier temps, il va jusqu'à Sodome, mais il est encore à l'extérieur. Il va installer donc aux portes, mais devant la ville. Un peu plus loin, il est dit qu'il est dans Sodome et Gomorre. Et un peu plus loin, il est dit qu'il trafique à la place du marché, à la porte de la ville. C'est là où se passent toutes les activités commerciales. Donc on voit chez Lot une progression d'installation dans la ville de Sodome et Gomorre. Il est présomptueux, il pense qu'il pourra se garder du péché environnant, mais il va se laisser séduire. Et Lot est l'image vraiment du chrétien faible. C'est le chrétien qui croit qu'il peut tenir, mais il ne tient pas parce qu'il est faible. Et les petits compromis qu'il fait, eh bien, petit à petit, il se retrouve dans la ville. Il a commencé par des petits compromis, mais des petits compromis ajoutés à des petits compromis, finalement, à la fin, ça fait un grand problème. Ça fait que la mentalité de la ville de Sodome est rentrée dans l'esprit de Lot, et tout cela l'a affecté. Ecclésias, chapitre 10, verset 1er, dit ceci, « Les mouches mortes infectent et font fermenter l'huile du parfumeur, un peu de folie l'emporte sur la sagesse et sur la gloire. » Les mouches mortes, quelques petites mouches qui vont venir infecter tout le parfum. Un peu de folie, un peu de compromis, de manque de sagesse, eh bien, ça va avoir un impact sur toute une vie. C'est pourquoi il nous faut bien mesurer, avant de prendre des décisions, l'importance de nos choix. Les compromis proviennent d'une baisse sur le plan spirituel. Plus on est attaché au Seigneur comme Abraham, plus on fera les bons choix. Plus on baisse spirituellement, plus c'est la chair qui va prendre le dessus et on va faire les mêmes choix que Lot On va considérer ça, c'est la bonne affaire. C'est la bonne affaire. Et vous savez, tout ce qui brille n'est pas or. Mais ça brille tellement, c'est tellement séduisant. Alors on n'écoute plus personne et on s'engage. Quelle erreur. Mais il est toujours possible de réagir. C'est pourquoi je disais tout à l'heure, écoutons la voix du Saint-Esprit. Écoutons la paix intérieure. Combien on a vu de personnes se tromper, faire demi-tour et revenir dans la bonne direction. Parce que c'est la volonté de Dieu. Ésaïe 55, verset 7. « Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. » Quelquefois, nous, on se lasse un petit peu parce qu'il y a des gens, c'est toujours les mêmes problèmes. Mais Dieu ne se lasse pas de pardonner. Que Dieu soit béni pour sa grâce. Elle est si grande, elle est infinie. Il va pardonner, mais nous avons notre part à faire. C'est de confesser nos péchés, de demander pardon, de faire demi-tour. Les conséquences, on va le voir au chapitre 14 et au verset 12. La Bible dit ici, « Ils enlevèrent aussi avec ses biens Lot, fils du frère d'Abraham, qui demeurait à Sodome, et il s'en est là. » C'est-à-dire qu'il y a des rois qui se sont coalisés et qui ont fait une conquête de Sodome. Et puis, Lot s'est retrouvé dans cette guerre qu'il n'a pas voulu, qu'il n'a pas demandé. Mais un peu plus loin, vous voyez qu'un fuyard va prévenir Abraham. Abraham va équiper 318 de ses plus braves guerriers et ils vont partir sauver Lot qui s'était égaré dans cette affaire. Et là, on se rend compte que vivre à Sodome, pour Lot, c'était à la fois un avantage sur le plan matériel, mais c'était aussi des inconvénients. Et là, les quatre rois qui ont envahi la ville l'ont emporté et maintenant il est prisonnier. Lui qui cherche la liberté, lui qui cherche à vivre comme il veut, maintenant il est prisonnier. Il y a un verset dans Jérémie 2,19 qui dit « Ta méchanceté te châtiera, ton infidélité te punira et tu sauras ce que c'est une chose amère d'abandonner l'Éternel ton Dieu, de n'avoir de moi aucune crainte, dit le Seigneur, l'Éternel des armées. » Voilà ce qu'est en train de vivre Lot. Il se rend compte que c'est une chose amère, que d'abandonner l'Éternel, que de se détourner de Dieu, que de suivre les penchants terrestres, humains, charnels, eh bien, ça n'aboutit à rien de bon. Et le voilà esclave. Maintenant, c'est amer, il est sur une terre étrangère et il ne peut pas se délivrer lui-même. Heureusement qu'il y a des chrétiens qui sont fermes et fidèles comme Abraham, parce que c'est ceux-là qui vont prier pour ceux qui se sont éloignés. Et c'est par la grâce de Dieu, ils vont aller combattre. Alors nous avons le combat spirituel, nous avons la foi, et nous croyons que des âmes vont être arrachées aux ténèbres. Et Lot va être ramené à Sodome avec ses biens, il va être délivré. Mais parce qu'Abraham, lui, s'est tenu fidèle, et nous pouvons bénir le Seigneur pour tous les frères et sœurs qui sont de la lignée spirituelle d'Abraham, qui tiennent ferme, qui continuent à prier et qui, quand viennent les problèmes, ils ne sont pas là pour critiquer, pour juger, parce que c'est vrai que Lot, on aurait pu dire, c'est bien de sa faute. Finalement, il n'a qu'à vivre sa vie là-bas, tant pis pour lui. Non, ils ont quand même eu cet esprit de pardon, de réconciliation, de le faire revenir, de permettre qu'il rentre chez lui, de permettre qu'il change, qu'il évolue et lui tendre la main. Et ça, on en a besoin. On en a besoin encore aujourd'hui. On a besoin de pardonner, on a besoin de demander pardon, c'est normal. Celui qui garde la rancune, celui qui ne pardonne pas à son frère n'avancera jamais. Colossiens 3,13 dit « Supportez-vous les uns les autres et si l'un de vous a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. » C'est demander dans la parole de Dieu que le Seigneur nous aide. « De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. » C'est terrible. Quand on a un esprit de vengeance, si Abraham avait été dur, s'il avait été méchant, s'il n'avait rien fait pour son frère, en fait, il se serait mis lui-même du côté charnel. Parce que ce texte dit que de même que nous avons été pardonnés, nous devons aussi pardonner, nous devons aussi aider les autres. Et ça, c'est notre part. Alors, un petit peu plus loin, d'autres conséquences vont surgir, parce qu'on pourrait dire, là, c'était une main tendue de Dieu pour lui dire « sors de cette ville ». Mais il est retourné à Sodome, il est retourné dans son environnement, il s'est bien intégré à la ville. Et c'est à partir du chapitre 19 et les versets 1 à 3, on le voit, qui est à la porte, c'est ce que je disais tout à l'heure. Ça signifie en fait la place principale, c'est-à-dire c'est le lieu d'échange de commerce. Il est vraiment intégré dans la ville de Sodome. et Gomorre dans la mentalité du pays. Et là, il y a trois anges avec une apparence tout à fait humaine, parce que les anges peuvent prendre une apparence humaine, mais on dirait trois hommes, mais en fait, ce sont des anges. Il y en a deux, pardon. Ils vont se présenter à Lot. Lot va les accueillir chez lui. Et en fait, ils sont en mission, ces anges, pour dire à Lot, Dieu va juger cette ville de Sodome et Gomorre, mais il veut vous épargner. Toi et ta famille, vous allez sortir de cette ville. C'est au verset 14 du chapitre 19. Il est dit que Lot a voulu témoigner à ses gendres. Et ses gendres ne croyaient pas en lui. Lot sortit par là ses gendres qui avaient des filles. Il dit, levez-vous et sortez de ce lieu. L'Éternel va détruire la ville. Mais aux yeux de ses gendres, il parut plaisanter. Vous voyez le problème du compromis. Il veut témoigner. Il veut leur... Et le message qu'il dit est vrai. C'est le message de Dieu. C'est ce qu'il a reçu des anges. Il faut partir. Il va y avoir un jugement. Tout va être détruit. Il veut sauver ses gendres. Mais son témoignage est creux parce qu'à l'intérieur, il n'a pas de communion réelle avec Dieu. Il n'a pas développé une vie spirituelle proche du Seigneur. Et aux yeux de ses gendres, ça n'était pas crédible. Il était plus, en fait, proche des gens de Sodome et Gomorre que de Dieu. Et dans un sens, il était des leurs. Et il pouvait dire, mais toi qui es des nôtres, pourquoi nous parles-tu de la sorte? Tu n'es pas différent de nous. Alors, nous sommes différents si nous sommes chrétiens. Bien sûr, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes plus du monde. Nous devons être dans la société, aimer les gens qui nous entourent. Mais en même temps, nous sommes différents. Et si nous n'avons plus de différence, eh bien, nous n'avons plus de témoignage non plus. Lot ne peut pas avoir d'impact. C'est vide. Et on se rend bien compte que ce qui domine dans sa vie maintenant, c'est la mentalité du péché de Sodome et Gomorre. Et il en a besoin lui-même d'en être délivré. Il est tellement imprégné, si vous lisez la suite, vous verrez que les anges lui rappellent encore, mais il faut que tu partes. Et la Bible dit même, il tardait à partir, comme s'il y avait encore des choses à traîner quand Dieu nous donne un ordre. Et il tardait tellement que c'est écrit que des anges sont venus le prendre par la main et le sortir de la ville. Jusque-là, le Seigneur a voulu le sauver, jusqu'à l'attirer lui-même par des anges en dehors de la ville. Sa femme, ses deux filles sont tous sorties. Et là, on voit qu'il est encore dans un esprit de compromis, parce qu'il dit à Dieu, « Oui, je sais que tu vas détruire toutes les villes environnantes, mais fais-moi encore cette grâce, je ne vais pas arriver à la montagne, mais la ville de Tsoar, qui est petite, j'y arriverai. Laisse-moi atteindre Tsoar. » Mais Dieu avait résolu de détruire aussi Tsoar, qui était dans le périmètre de Sodome et Gomorre. Et on voit qu'il tente un dernier compromis, et Dieu lui accorde cette grâce, mais ce n'était pas la volonté de Dieu pour lui. La volonté de Dieu, c'était qu'il aille jusqu'à la montagne. Mais il est habité de cette mentalité de compromis. Les anges ont donné un ordre très simple que n'importe qui peut accomplir. Sortez de la ville et surtout ne regardez pas en arrière. Tout le monde peut le faire. Tout le monde a entendu l'ordre, mais la femme de Lot, peut-être tellement attachée, elle aussi qui était croyante, tellement attachée à la ville de Sodome et Gomorre, a tourné la tête et regardé au moment de la destruction. Et la Bible dit qu'elle s'est transformée en statue de sel. Finalement, Lot et sa femme étaient remplis de la mentalité de Sodome. Et elle en est morte. Lot a été sauvé, mais si vous lisez la fin de sa vie, c'est tragique. Ses filles, il va y avoir un inceste avec ses filles, ça va donner deux enfants qui vont être des ennemis du peuple de Dieu, c'est les Ammonites et les Moabites. Ils vont devenir des ennemis du peuple de Dieu, ça va être une catastrophe dans sa vie. Ça va être quelque chose de dramatique. Pour terminer, nous voyons un contraste saisissant dans ce passage entre deux types de vie de croyants. Parce que, comme je l'ai dit, pour Lot, il était juste aux yeux de Dieu, donc il faisait partie des croyants. Mais sa vie ne démontre pas la vie d'un croyant. Sa vie de piété est absente. Il n'a pas de vie de prière, il n'a pas développé véritablement une relation avec Dieu, sa vie va être une catastrophe. Et nous voyons bien que ce n'est pas la volonté de Dieu pour nous. Quand on regarde la vie d'Abraham, il a choisi de suivre Dieu. Il est resté dans la montagne. Il s'est donc tenu à l'écart de Sodome et Gomorre. Mais Dieu l'a béni. Dieu lui a dit, regarde la poussière. Si on peut, ta descendance sera aussi nombreuse que la poussière si on peut la compter. Il était vraiment dans le plan de Dieu, dans la montagne. Abraham a continué dans la bénédiction. Il a continué à être proche du Seigneur. Il a même pu aider Lot à un moment donné où Lot ne pouvait plus rien faire. Tandis que Lot s'est constamment enfoncé à partir du moment où il a suivi ses impressions, ses impulsions, et cela l'a égaré. Deux courants, le courant charnel avec Lot, le courant spirituel avec Abraham, c'est un petit peu à nous de choisir, à nous de nous positionner et de prendre pour modèle Abraham, un homme de foi, un homme qui s'attache à Dieu, un homme qui aime la prière, qui aime lire la parole, qui aime la parole de Dieu, qui aime tout ce qui concerne l'œuvre de Dieu. On va prier quelques instants et demander au Seigneur sa grâce. Merci encore pour ta parole. Nous croyons que tu es là ce matin encore pour fortifier les cœurs et nous accorder le secours d'en haut. Et nous savons bien que nous sommes confrontés à des choix. Et nous voulons te prier pour chacun, Seigneur, ce matin, pour que tu conduises, afin que nos frères, nos sœurs, ne soient pas conduits par un choix humain, un choix terrestre, dans des décisions importantes qui engagent parfois toute une vie, toute une famille, mais afin, Seigneur, que nos choix soient inspirés. Et nous voulons te prier les uns pour les autres, afin que nous soyons de ceux de la lignée d'Abraham, la lignée spirituelle de ceux qui ont la foi, de ceux qui s'attachent aux choses d'en haut, des vraies valeurs, les valeurs spirituelles, les valeurs célestes, les valeurs que nous affectionnons. Oui, Seigneur, nous voulons te bénir ensemble et te dire à toi toute la gloire, dans le nom de Jésus. Amen.